Série de prédications dans Luc 22. Et on va voir l'arrestation de Jésus ce matin. Et retenez une phrase, peut-être une phrase clé, c'est que notre salut dépend de l'obéissance de Jésus-Christ. Je vais revenir plusieurs fois sur cette notion de l'obéissance. Et ça sera aussi la conclusion. Mais retenez ceci, notre salut dépend de l'obéissance de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons souligné qu'au jardin d'Éden, Adam a choisi la désobéissance, l'indépendance et l'insoumission. Michel avait parlé de cette phrase, que j'avais trouvé ça très pertinente. Dans le jardin d'Éden, Adam a choisi la désobéissance, l'indépendance et l'insoumission, alors que Christ, dans le jardin de Gethsémané, a choisi l'obéissance, la soumission et la dépendance au Père. Nous allons voir que face à la trahison, à l'hypocrisie, à la colère, à la haine, à l'injustice, à l'abandon, Jésus a répondu par l'obéissance à la volonté du Père. Et comme je l'ai dit, et qu'on le voit écrit ici, il ne faut jamais oublier que notre salut dépend de son obéissance. Notre salut dépend de son obéissance. Ce qu'il a fait à Gethsémané était nécessaire pour aller à la croix. Nous allons relire le combat que nous avons vu la semaine dernière et ensuite nous allons lire les versets qui nous intéressent ce matin. Et puis je reprendrai sur forme de trois scènes différentes dans ce passage de ce matin, et à la lumière aussi de Matthieu et de Jean, et j'essaierai d'expliquer chacun de ces versets. Mais gardez bien toujours en tête, notre salut dépend de l'obéissance de Christ. Et vous allez voir l'obéissance de Christ dans tous ces versets. Verset 39, nous allons regarder premièrement Luc 22, verset 39 jusqu'à 53. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant lui. Il s'approcha de Jésus pour lui faire un baiser. Et Jésus lui dit, excusez-moi, c'est un peu moins bien, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » On peut mettre la deuxième diapo de ce matin. Je me suis un peu amusé. J'aurais pu faire ses propres dessins moi-même. Vous allez voir, j'ai fait des petites images pour nous rappeler ces scènes et puis voir vers où cela va nous emmener. Les trois scènes que nous allons voir ce matin, voilà, je me suis un peu amusé. Des fois, il faut des images, ça fait sourire, mais peut-être aussi ça enregistre. La trahison qu'on va voir, la colère de Pierre. Et puis l'injustice de tous ces hommes qui vont être là, qui auraient pu venir l'arrêter bien avant, mais qui ont choisi un endroit très particulier, un moment très particulier. Et puis tout cela, par obéissance, on va aller à la croix, car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, Adam dans le jardin d'Éden, et puis aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes, par l'obéissance à Gethsémané. On peut laisser cette diapo, et puis quand il y a les versets qu'on lit, on va sur les versets, puis on peut la remettre, ça peut rester un mémotechnique pour nous pour ce matin. Les trois scènes que nous allons voir ce matin vont nous montrer que Jésus va rester calme. Tranquille. Autant vous voyez, dans le temps de la prière, on sent qu'il y avait de l'angoisse. C'était dur pour lui. Mais là, les scènes que nous allons voir dans les trois scènes, vous allez voir un Jésus qui reste calme, tranquille, obéissant et au contrôle des événements. Ça, c'est notre Seigneur. Il est au contrôle des événements. Mais nous allons aussi voir quelque chose de très intéressant et je demanderai que vous ayez de l'attention pendant les trois scènes que nous allons voir. Vous allez voir le combat entre la chair et l'esprit. Vous allez voir comment le côté charnel de l'être humain ressort et comment la puissance de l'esprit du Seigneur est là, présent. Et puis nous verrons aussi en conclusion l'importance de l'obéissance. Alors on va revenir sur cette première scène. Je ne vais pas relire les premiers versets que nous venons de lire, mais je vais lire dans deux autres passages. C'est très important aujourd'hui, à chaque scène, je vais aller voir dans Matthieu et dans Jean pour que nous puissions voir qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant cette arrestation. Luc, ça a été le plus feignant sur l'arrestation. C'est rare parce que Luc est quelqu'un qui est un médecin, qui aime bien les détails, à expliquer tout. Mais là, pour lui, il a synthétisé cela. Mais Matthieu et Jean nous apportent des informations. Alors la première scène, nous allons la relire dans Matthieu 26, 47 à 50. On va relire cette scène en Matthieu 26, 47 à 50 et dans Jean 18, 2 à 8. Et on va prendre le temps de lire l'écriture pour voir qu'est-ce que cela nous enseigne. En Matthieu 26, si on peut regarder Matthieu 26, 47 à 50, sauf si vous avez, ou en tout cas même, vous pouvez lire dans vos Bibles ou dans vos smartphones. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze arriva avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» Il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le !» Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Voilà comment nous rapporte cet événement Matthieu. Jean. Jean 18, versets 2 à 8. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu. Pourquoi ? Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc depuis une semaine, ils étaient à Jérusalem. Et du coup, c'est un endroit où Jésus venait régulièrement. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec ses lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils leur dirent « Jésus de Nazareth ». Bon là, ils devaient tous flipper. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Alors qu'est-ce que nous apprenons dans ces premier verset sur l'arrestation de Jésus à travers Luc, à travers Matthieu et à travers Jean. La première information qu'on a, qui est importante, c'est que le texte dit « Judas qui le livrait ». Donc Judas, il est juste en train d'exécuter la promesse qu'il avait faite. Vous vous souvenez, c'était une de nos premières prédications dans l'évangile, dans Luc 22. Regardez ce qu'il avait dit en Luc 22, 4, verset 6. Luc 4, verset 6, 22, 4, verset 6, il est dit ceci. « Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs. » Là, on est avant le repas, hein, avant le repas du Seigneur, avant ce repas qu'ils vont prendre. « Et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie, ils étaient contents. Et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. » C'est très important, parce que vous allez voir que le moment et le lieu va être mis en pratique. Ils vont le livrer à l'insu de la foule. Pourquoi ? Il fait nuit. il fait nuit. Le texte nous dit ils viennent avec des lanternes. Et puis on voit que c'est un lieu à l'écart, cet endroit de Gethsémané. Donc un moment et un endroit, je dirais, qui était propice pour trahir. Propice pour trahir. Et le cœur humain, quand il doit trahir quelqu'un, il réfléchit tout. Il réfléchit comment on va trahir. Le cœur de l'homme est tortueux. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est l'endroit et le moment que Dieu a voulu. Et le texte nous dit que Jésus, qu'est-ce qu'il dit le texte ? Jésus savait. Jésus savait. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, l'omniscience de Jésus. Judas n'arrive pas seul, vous avez vu avec moi ? Il arrive avec un peu de monde, monsieur Judas. Et lui, c'est intéressant parce qu'il n'a aucune autorité, mais il arrive devant tout le monde, le texte. Vous avez vu, il arrive devant tout le monde. Hein, il a pris un peu des ailes. En tout cas, le traître ne se cache pas. Ou il ne se cache plus. Luc parle d'une foule. Matthieu parle d'une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons avec les responsables religieux. Il est possible qu'il soit question de la police du temple. Et puis Jean, lui, précise quelque chose qui est très intéressant. Il parle de cohorte. Donc ça veut dire que les Romains étaient là. L'armée romaine est venue. Et l'armée était toujours plus présente en Israël et à Jérusalem pendant les périodes de fêtes. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient toujours peur qu'il y ait quelques révoltes et il fallait contrôler la ville. Et puis peut-être Pilate avait peur d'un soulèvement. L'histoire de Jésus était sûrement arrivée à ses oreilles. Et il a dit, on va envoyer quand même une cohorte. Alors une cohorte, dans le langage romain, ça pouvait aller de 200 à 1000 personnes. Je ne crois pas qu'il y avait 1000 personnes dans le contexte, mais il est fort possible qu'ils étaient au moins 200, le minimum, voire 300. Donc, si vous imaginez déjà la cohorte, la police du temple, les chefs religieux, certains gens qui étaient curieux de voir cette arrestation, ça commence à faire un peu de monde qui était là présent pour l'arrestation d'une seule personne. Et c'est intéressant aussi de voir que quand on a un ennemi commun, mes amis, on est capable de faire de drôles d'alliances. Les Romains et les sacrificateurs, ce n'étaient pas des potes, hein ? Ils ne s'aimaient pas. Mais quand on a un ennemi commun, on a une capacité dans notre cœur tortueux de faire des alliances pour faire tomber l'autre. C'est horrible, hein ? Et ils vont faire ça ici, ils vont faire une alliance. Mais ce qui est encore beau dans ce passage, c'est que Jésus n'est pas affolé. Il y a du monde devant lui, mais lui, il ne s'affole pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend même les devants en leur posant cette question. Qui cherchez-vous ? Dites-moi, qui cherchez-vous ? Il sait très bien qu'ils sont en train de chercher. Hein. Et ce qui est frappant, c'est que cette foule, vous l'avez vu, je me suis arrêté volontairement un peu dessus tout à l'heure dans la lecture, cette foule, qu'est-ce qui se passe quand il dit « Je suis ». Elle recule et tombe par terre. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth ! Moi, je suis ! Imaginez que juste avec ces paroles, vous tombiez tous de votre chaise. Moi, je n'ai pas cette capacité à faire ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Peut-être 400, 500 personnes qui viennent armées pour arrêter une seule personne. Et quand ils disent « Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth ! Moi, je suis !» Tout le monde tombe au sol. Moi, je pars en courant, hein, je ne me relève pas, je vous le dis. Hein. Cette expression « je suis », vous le savez pour la plupart d'entre vous, une expression que l'Éternel utilise souvent dans l'Ancien Testament pour se révéler. En Exode 3, 14, il est dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis ». Ok, pas mal. Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. » Je ne crois pas que c'est le fruit du hasard que Jésus utilise ces paroles à ce moment-là. Je crois que Jésus veut que ses auditeurs entendent qui il est. Je suis. Je suis l'Éternel. Pour tous ces responsables religieux présents, cette expression, je ne peux pas penser qu'elle n'a pas quand même frissonné un peu aux oreilles. Ils étaient sûrement bien aveuglés, hein. Mais ce « je suis » en train de simplement dire à ces gens, il n'y a rien en dehors de moi. Je contrôle tout. Je contrôle tout. La scène va se reproduire, vous avez vu. Qui cherchez-vous ? Il leur pose la deuxième question. Je ne sais pas, on n'a pas la tonalité. Jésus de Nazareth. Ils vont le redire. Et là, Jésus va se laisser arrêter. Et je crois que c'est à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que Judas va s'approcher de Jésus pour l'embrasser. Alors certains ont dit, mais pourquoi faire cela? Jésus, là, sa réponse était très claire. Oui, elle est claire, mais cette identification était nécessaire. C'était un signe de confirmation. Et puis, il fait nuit. On est 2000 ans en arrière, dans un endroit qui n'est pas l'Occident aujourd'hui avec tout notre éclairage. Et puis, il n'y avait pas de photo à cette époque-là. Et puis, va reconnaître un Galiléen, 11 Galiléens parmi 11 Galiléens. Ils se ressemblent tous. Et ils sont là depuis à peine une semaine à Jérusalem. Donc ce baiser était nécessaire, il était important. Et Jésus lui dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. On va voir dans quelques instants cette notion de Fils de l'homme. Mais j'imagine cette scène qui a dû être très particulière. Judas qui revient vers Jésus et qui le prend dans ses bras. Rabbi, viens, je t'embrasse. Et Jésus qui lui dit, mon ami. Elle a dû être spéciale cette scène. Je ne sais pas s'il pleurait, Judas. Je ne sais pas. Rabbi, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il aimait forcément Jésus. Rabbi, c'était quelque chose de courant, hein, de saluer son maître, Rabbi, et lui faire un baiser. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas ton maître, c'était quelque chose. Donc, il y a au moins le signe de politesse, mais surtout, ici, ce baiser était un signe pour montrer qui c'est qu'il fallait arrêter. Tu es venu pour trahir le Fils de l'homme. Il lui dit ça, hein. Jésus ne refuse pas cette proximité. Il aurait pu lui dire, hein, t'approche pas de moi, je veux plus entendre parler de toi. Jésus va accepter cette proximité. Il va accepter d'être embrassé par le traître. Combien de personnes auraient laissé une personne qui voulait vous trahir à mort vous embrasser? Jésus l'a fait. Je me pose la question, pourquoi Pierre n'a pas coupé l'oreille de Judas plutôt que du... Et si vous voyez, il n'y a aucune réaction des autres disciples. Personne ne parle. C'est étonnant, hein ? Il n'y a aucune réaction des disciples. Et Jésus lui dit, Judas, prends ce que tu es venu chercher. Prends ce que tu es venu chercher. Fais-le. Fais-le. Le plan de Dieu est sur mesure et il se réalise. Pas de colère. Pas de rancune de Jésus-Christ. Vous connaissez tous ce verset, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Application très pratique ici. Tellement pratique. Jésus lui dit aussi, et je répète cette phrase, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Alors ce titre de Fils de l'homme peut être compliqué des fois à comprendre, mais il est tellement important. Et je vais vous le résumer de manière assez simple, j'espère. Le Fils de l'homme, c'est un terme qui est très important pour réconcilier le divin avec l'humain. Le Fils de Dieu, c'est le côté de la nature divine. Le Fils de l'homme, c'est le côté de la nature humaine de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une personne qui est très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est une personne avec deux natures. Et nous ne connaissons personne dans notre entourage qui est comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué des fois à comprendre la divinité et l'humanité de Jésus-Christ en une seule personne. Tous les gens que je côtoie, et moi-même je suis fait comme ça, d'une personne et d'une seule nature. Et en moi, en plus, j'ai une nature qui est corrompue. Alors que Jésus... Sa nature, elle est parfaite. Elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Sa nature humaine. Je ne parle pas de sa nature divine, mais sa nature humaine, elle est parfaite parce qu'il a été sanctifié, purifié par le Saint-Esprit lors de sa conception. Donc, une nature sans péché. Sa nature divine n'avait pas besoin d'être purifiée. C'est cohérent, c'est logique. Hein? Mais il faut savoir que Jésus n'a jamais perdu ni renoncé à une seule de ses perfections divines durant son incarnation. Il est toujours resté pleinement Dieu. Les moments où nous voyons que Jésus est limité... C'est sa nature humaine qui a été ajoutée. C'est pas, on n'a pas enlevé quelque chose à sa nature divine. Et souvent les gens pensent qu'il a limité sa nature divine. Non, Jésus est toujours resté pleinement Dieu. Tout le temps. Mais sa nature humaine est venue se greffer à sa nature divine. C'est pourquoi il y a des versets, comme on a vu la semaine dernière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ici, c'est la nature humaine qui est en train de parler. Bien sûr, en harmonie avec la nature divine, mais c'est la nature humaine qui est en train de dire ça. Et elle va apprendre à se soumettre à la volonté du Père. La nature divine, elle n'a pas besoin. Il est Dieu lui-même. Mais cette nature humaine avait besoin de ça. Le Fils de l'homme a enduré la faim, la peur, la souffrance, la trahison. La tristesse, les pleurs, la fatigue. Voilà ce qu'endurait le Fils de l'homme. l'abandon. Le Fils de l'homme est le médiateur entre l'humain et Dieu. Si Jésus-Christ n'avait pas eu une nature pleinement humaine et pleinement divine, mes amis, c'était impossible de réconcilier l'humain avec le divin. Impossible. Dieu n'allait pas faire ça. Il restait dans sa sainteté, l'humain dans sa misère. Mais Jésus-Christ, en une seule personne, 100% homme, 100% Dieu, rien n'a bougé dans sa divinité. Il est venu pour cela. Voilà le terme important de comprendre de qu'est-ce que le Fils de l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un salut en aucun autre que Jésus-Christ. Aucun autre. Aucun être humain sur cette terre, aucun philosophe, aucun grand penseur, aucun grand religieux de ce monde n'a une nature humaine et une nature divine. Uniquement Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre médiateur que Jésus-Christ. Tu es venu chercher le Fils de l'homme. Il est là. Il est prêt. Il est prêt d'être abandonné de tout le monde. Il est prêt à aller sur la croix. Et encore, la nature humaine qui criera, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu ne peut pas mourir. La nature divine de Christ ne va pas mourir à la croix. Mais la nature humaine de Christ, Père. Deuxième scène. Ceux qui étaient avec Jésus, donc obéissance de Christ, il va se laisser arrêter. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qu'il allait arriver, dire « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Matthieu nous dit ceci. « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, Matthieu 26, 51-54, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Jean 18, 10, 11. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne moirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» C'est intéressant de voir les trois évangiles. Ça nous donne une meilleure perspective. On voit le passage en 3 ou en 4D, là, peut-être. Alors, la réaction des disciples. « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» On voit qu'ils n'ont rien compris à la prédication que j'avais faite il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines, quand on leur a dit qu'il fallait que prenez une épée. On avait vu qu'il y avait un changement de situation, on avait expliqué pourquoi il fallait prendre une épée, mais eux, ils n'ont rien compris, ce n'est pas de ça que Jésus était en train de parler. Même, il leur avait dit, allez, ça suffit, vous n'avez rien compris à ce que je suis en train de vous dire. Mais là, la mise en pratique, malheureusement, on voit qu'ils n'avaient rien compris. Qu'est-ce que font les disciples ? Les disciples veulent prendre les choses en main. Les disciples veulent prendre les choses en main. Je ne vais pas mettre tout le poids sur Pierre qui est mentionné ici. Je les mets tous dans le même sac parce qu'ils tous auraient pu le faire. Au lieu de laisser Dieu faire sa volonté, ils pensent qu'ils peuvent protéger Jésus. Ils pensent qu'ils peuvent protéger Jésus. Quel manque de confiance en Jésus. Et pourquoi il y a un manque de confiance? Parce que c'est lié, le manque de confiance en Christ et en Dieu est toujours lié à une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Sachez ça, mes amis. C'est lié à ça. Notre manque de confiance en Dieu, c'est lié à une mauvaise compréhension ou un manque de compréhension de qui est Jésus. Quand nous ne maîtrisons plus les circonstances, et ça arrive souvent, quand nous sommes envahis par nos craintes, par nos peurs, nous sommes capables d'avoir des pensées puis des réactions violentes, des réactions insensées. Et c'est ce qui se passe pour Pierre et les apôtres à ce moment-là. Ils vont être envahis par des peurs, des craintes, ils vont vouloir prendre le dessus, leur chair va prendre le dessus. En contraste avec Jésus qui est calme, serein, tranquille. Pierre va refléter le cœur des 10 autres, mais notre cœur aussi. Sa bonne volonté. Il avait de la bonne volonté, je ne lui jette pas la pierre, c'est le cas de le dire. Mais sa bonne volonté était purement charnelle. Purement charnelle. Il y a un vrai contraste entre la sagesse d'en haut et la sagesse terrestre qui est diabolique et satanique. Il y a un contraste. Elle se voit uniquement dans nos choix de vie quotidien. ne peut pas se voir autrement. Quand la chair contrôle nos pensées, il y a un impact sur nos actions. Toujours. Je connais personne et je me connais bien. Et la personne, je disais à ma femme hier soir, que j'ai le plus peur et que je crains le plus. C'est pas le diable, c'est moi-même. C'est moi-même. C'est pour ça que je crois de plus en plus à la mortification de la chair pour la puissance de l'esprit. Sans ça, vous êtes morts. On en parlera dans la conclusion. Je vous le dis honnêtement. C'est pour ça que Jésus, il a combattu. Il n'a pas juste lutté en faisant des trucs comme ça. Il a combattu. Et le combat, ça fait couler du sang. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Je vous le dis. Hein. On chute trop facilement. Pierre a chuté trop facilement là. Parce que c'est violent ce qu'il fait. Il enlève quand même l'oreille d'un homme. Il aurait pu le tuer. Nous faisons des choix qui peuvent avoir des conséquences graves, très graves, qui nous suivront toute notre vie, c'est la réalité. Ou sur la vie des autres. Je ne sais pas si cet homme va avoir une cicatrice. Il n'oubliera jamais cette scène, cet homme-là. Autant on va avoir la guérison, mais le coup. Pierre était en train d'aggraver la situation de Jésus. Pensant bien faire, il allait aggraver sa situation, avoir peut-être un impact sur son procès. Mais lui, il ne voit pas tout ça. Il pense qu'à lui. Égoïste, ce que nous sommes. Un mauvais témoignage de la part de Pierre. Cette réaction montre aussi qu'il n'a pas vraiment compris et écouté Jésus. Il leur avait annoncé ce qui devait lui arriver, mais ils n'ont pas écouté. La première chose que Jésus lui dit, comme il lui avait dit dans le passage précédent, ça suffit, arrête, arrête, range ton épée. Moi, je ne vous ai jamais montré cela. D'où tu as appris ça? D'où tu as appris de me voir faire et agir comme cela? Tu crois que j'ai besoin de toi, Pierre? Mais Pierre, reste à ta place! J'ai pas besoin de ça. Jésus lui dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Le contraste entre la petite cohorte et la légion d'anges. Je crois qu'une légion, c'était plus de 6000. Il prend un langage qui était en train de parler parce que la légion, c'était dans l'armée romaine. Et qui était bien au-dessus d'une cohorte. Tu crois que je ne serais pas capable de faire cela? Je suis obéissant, Pierre. Et j'ai besoin d'aller à la croix. Pierre, je te dis une autre chose. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Vous savez, Pierre, et les disciples vont comprendre ça plus tard. Parce qu'il n'y a pas encore le Saint-Esprit en eux. Christ, il a vaincu sur une croix, pas avec une épée. Il n'a pas vaincu avec une épée, Christ. Il a vaincu sur une croix. Il a vaincu en donnant sa vie, pas en prenant celle d'un autre. Il n'a pas pris celle d'un autre. Il a vaincu en donnant sa vie. Jésus lui affirme, « Je suis venu pour boire la coupe de la colère. Je suis venu faire la volonté du Père. Le Père n'est pas en colère contre moi, Pierre, mais parce que je suis juste, mais Dieu est en colère contre toi, contre toute l'humanité. Sans exception. Pourquoi? Parce qu'elle est corrompue par le péché. Il n'y a pas un seul être humain qui est juste depuis la chute d'Adam. Pas un seul. Et la colère de Dieu est juste. La colère que tu mérites, Pierre, elle va retomber sur moi. Et je le veux. Christ le veut. La colère qui devait retomber sur toi, Florent, elle va retomber sur moi, parce que c'est ma volonté. Et je veux boire la coupe du Père, cette coupe de la colère. Et cette colère du Père doit être déversée sur moi. Sinon, Pierre, elle va rester sur toi. Je veux la recevoir, la juste colère du Père, pour te donner, vous donner, nous donner aujourd'hui l'accès au salut. Pourquoi Gethsémané était tellement important? Pourquoi cette arrestation était importante? Parce que Jésus allait être obéissant. Et notre salut dépend de l'obéissance de Christ à ce moment-là. Nous sommes en incapacité de comprendre, je crois, cette souffrance qu'a endurée Jésus de boire la coupe de la colère de Dieu. Et je vous le dis honnêtement, même en l'étudiant, cela me dépasse. Pour une simple raison, c'est que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que veut dire le poids du péché. De mon péché, j'arrive à le comprendre un peu. Mais le poids du péché de toute l'humanité. Et tout cela fait partie du plan de Dieu. Le péché, c'est pas beau, hein. C'est affreux. Ça détruit toujours. Je ne connais pas un péché qui ne détruit pas. Et c'est Christ qui l'a porté. Il a tout pris sur lui. Il a été abandonné. Et les écrits des prophètes avaient annoncé cela. L'écriture doit s'accomplir, nous avons lu Ésaïe 53, il y a un des passages extraordinaires qui nous parle de cela déjà. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Et là, ce qui est beau, c'est que Dieu démontre son amour pour ses ennemis. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu Malchus, hein, le monsieur, le Romain qui est là, mais je crois que cette scène a dû marquer sa vie à jamais à cet homme-là. Il a pu raconter ça à ses enfants, à ses petits-enfants. Et Jésus leur montre qu'il n'est pas un voleur ou un criminel, mais quelqu'un qui guérit, qui sauve. Parce qu'il va leur dire, vous me prenez pour un voleur, un criminel, mais moi je suis là pour guérir et pour sauver. Regardez, je vous le montre. Je ne suis pas une menace pour l'État. Et j'ai aucun désir de me battre. Cela montre que leur accusation ne tiendra pas la route face au faux procès qu'il va mener. Jésus combat la méchanceté et la haine par l'humilité. Et nous combattons par nos revendications, nos insatisfactions et nos droits comme Pierre. Cette manière de vivre, mes amis, elle doit mourir. Et je vous invite à lire Colossiens chapitre 3, qui est très pratique pour la mortification de la chair. Mais ce qui me rassure dans la lecture globale de l'Écriture, c'est que ces mêmes disciples ont fait mourir de nombreuses actions et réactions charnelles à partir de la Pentecôte. Et quand on viendra pour les arrêter, nous étudions ça dans les actes en ce moment, ils n'useront plus de violence parce que leur vie est soumise au Saint-Esprit. Troisième scène, et on finit avec ça. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, je ne vais peut-être pas le relire en Luc, vu qu'on l'a lu tout à l'heure, je vais lire en Matthieu et en Jean parce que je vois que le temps avance. Matthieu 26, 55 à 56. Je lis peut-être la fin, ouais, reste là-dessus, mais je vais lire peut-être pour les gens ici et pour l'audio. À la fin du verset 53, dans Luc, il dit, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres.